ça passe, mais ici, c'est plus facile avec un micro. Alors, vous allez bien? Vous êtes très étendus aujourd'hui. Je vais devoir me retourner comme ça. Quand il y a quelque chose qui se passe dans un culte, et tu te dis, oh mince, j'allais dire ça. Je ne sais jamais, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas que je le dise maintenant, ou est-ce qu'il faut que je l'appuie? Parce que c'est clairement quelque chose que Dieu a sur son cœur. Donc, je vais appuyer. Okay? Donc, comme ça, vous êtes prévenus. Ce n'est pas que je n'écoutais pas tout à l'heure, c'est que j'appuie ce qui a déjà été dit. J'aimerais savoir qui ici a déjà dit à quelqu'un, Jésus t'aime. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont déjà dit à quelqu'un, Jésus t'aime? Okay? Moi, je l'ai fait, et je ne sais pas ce que vous avez en général comme réponse. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est quand quelqu'un, j'avais dit ça à quelqu'un, on était en discussion. Ce n'était pas juste que je balançais ça comme ça, on était dans une discussion. Et j'ai dit, mais Jésus t'aime. Et cette personne m'a dit, et alors? Et en fait, je me dis, mais ce n'est pas si bête que ça, parce qu'on dit souvent, ah oui, mais Jésus nous aime. Mais et alors? Finalement, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change dans nos vies que Jésus nous aime? Qu'est-ce que ça change dans ma façon de vivre si je sais que Jésus m'aime? Parce qu'il y a un monde entre le fait de l'avoir entendu et le fait que ça soit quelque chose qui est intégré dans nos cœurs, qui a un impact sur notre façon de vivre, notre manière de vivre. Et on va focaliser... l'amour de Dieu, c'est vaste. Je ne peux pas, dans le temps alloué, vous parler de tout ce qu'il y a à dire sur l'amour de Dieu. On va cibler quelque chose ce matin, et c'est vraiment cette question-là. C'est le « et alors ?» Et alors, qu'est-ce que ça change? Et notre point de départ ce matin, ça va être une prière que Paul a priée pour l'Église en Éphèse. Alors, je vous ai déjà parlé de l'Église en Éphèse. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je vous expliquais un peu comment c'était dans la ville, que c'était un peu la pourriture du monde qui vivait là, qui faisait un peu n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est le dernier endroit du monde où on a envie d'aller implanter une église. Et pourtant, c'est l'endroit où Dieu a envoyé les gens parce que justement, ils avaient besoin. Ils avaient besoin de Jésus. Et donc, au moment où Paul est en train d'écrire cette lettre à l'église là-bas, c'est une communauté de personnes avec un passé lourd pour la plupart, un passé très lourd pour certains. Ils ont reconnu leur besoin de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu dans leur vie. Ils vivent dans une ville où leur présence, c'est à peine, voire pas du tout toléré, parce que maintenant, le nouveau style de vie, ça ne correspond pas du tout avec la société autour, qui est un peu n'importe quoi. Et Dieu est, non, en fait, on ne vit pas comme ça. Il y a des choses à mettre en place. Et donc, finalement, ce n'est pas si différent de nous ici aujourd'hui. J'imagine qu'il y a ici des personnes avec des passés très variés. Il y a certains qui ont des passés très lourds, il y a d'autres pas du tout. Mais on vit tous dans une société où il y a une pression à faire comme eux. Et en fait, c'est difficile parfois de se tenir d'une façon... qui est juste devant, aux yeux de Dieu. Et donc, Paul, il voit leur situation. Il dit, j'ai une prière, c'est la prière que je veux prier pour vous. Et voici ce qu'il prie pour cette communauté. C'est en Éphésiens 3, 14, 19. Il dit, c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi, enracinée et solidement fondée dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint, nous, tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Alors, Paul ne parle pas ici de la force de l'amour de Jésus. Il ne dit pas, faut que vous sachiez que Jésus vous aime fort. Ce n'est pas ce qu'il dit là. Parce que il n'est pas en train de parler d'un sentiment qui peut avoir de la force. Il est en train de parler d'un amour qui est consistant. Okay? Ce n'est pas l'odeur du reblochon, de la tartiflette dont il parle ici. C'est les patates, c'est les oignons, c'est le reblochon, c'est les lardons, c'est tout ce qu'il fait. C'est solide, c'est consistant. Et Paul dit, on peut le mesurer. Il y a les dimensions. Ce n'est pas juste un truc qu'on a du mal à mettre la main dessus. Mais c'est quelque chose, on peut mesurer ça. Et il parle, le mot dans le grec, c'est un mot que vous connaissez, on a déjà parlé de ça, c'est le mot agapé. C'est le mot qu'on utilise pour parler de nos repas ensemble. On fait une agape, okay? Le mot en grec, c'est agapé. Et ce mot, c'est pas l'amour un sentiment, c'est l'amour actif. Ça veut dire que vous savez si vous aimez parce que vous faites quelque chose. Ça, c'est le mot qui est utilisé dans ce passage. Et Paul dit que la connaissance de cet amour, agapé, il dit que la connaissance de cet amour va nous permettre d'être remplis de toute la plénitude de Dieu. Ce n'est pas juste un petit peu de la plénitude, c'est toute la plénitude de Dieu. Et on va revenir sur cette expression un peu plus tard, juste pour être clair qu'on sait ce que ça veut dire. Mais ce que je vais vous expliquer un peu plus clairement, j'espère, aujourd'hui, c'est ce que ça veut dire, ces dimensions de l'amour de Dieu. Parce que chaque dimension a un impact différent sur notre façon de vivre. Okay? Donc, l'amour de Christ est large. Alors, imaginez, large, ça veut dire quoi? Pensez à quelque chose qui est large. Et je pense que la largeur de l'amour de Dieu, ça se trouve en premier sur la liste. Et peut-être parce que c'est le point d'entrée de notre connaissance de l'amour de Dieu. Il y a quelques défis qui existent pour nous avant de découvrir l'amour de Dieu. Et ces défis, les deux principaux défis sont l'exclusion et la culpabilité. Et on a parlé un peu ce matin, les gens qui se sentent un peu en marche. Okay? Et l'amour large de Christ, c'est la chose qui casse. On va voir quelques versets que vous allez connaître très bien ce matin. Et je n'excuse pas le fait de les remettre, parce qu'on a vraiment besoin de les prendre pour nous et pour les comprendre. Donc, est-ce que tu peux mettre, Elita, Jean 3,16, s'il te plaît? Alors, là, on peut dire les yeux fermés, sans problème. Okay? Oui, Dieu a tant aimé, agapé, il a agapé le monde, qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. J'ai déjà prêché sur ce verset en parlant plus de la vie éternelle. Ce qui m'intéresse dans ce verset-là pour aujourd'hui, c'est le tout ce. Tout ce. Dans d'autres versions, si tu peux mettre l'autre, s'il te plaît, Elisa. On voit quiconque. Quiconque. Alors ici, ce matin, on est, j'imagine, pour la plupart, les quiconques qui ont cru. Nous faisons partie de tous ceux qui ont placé leur confiance. Ça veut dire que dans les quiconques, personne n'est exclu. Personne. Personne. Et ce n'est pas votre style de vie actuel, ce n'est pas votre situation actuelle, et ce n'est pas vos connaissances actuelles qui vous empêchent de décider de placer votre confiance en Jésus pour connaître la largeur de son amour. Okay? On n'est pas en train de parler d'un amour qui dépend de votre perfection. On est en train de parler de l'amour de Dieu. Vous croyez pas, Dieu vous aime. Okay? C'est la largeur de l'amour de Dieu. Parce que c'est pour quiconque. Quiconque. Okay? Il n'y a pas de quiconque sauf. C'est quiconque. Donc ce matin, déjà, pour ceux qui font déjà partie des quiconques, vous savez que vous êtes inclus. Pour ceux qui ne croient pas, peut-être ici ce matin, vous êtes venus un peu pour voir, sachez que vous faites partie de ces quiconques aussi. Parce que personne n'est exclu. Et placer sa confiance en Jésus, parce que ça c'est le point de départ. Placer sa confiance en Jésus signifie que nous invitons Dieu sur le chantier de notre vie. C'est ça que ça veut dire. Placer sa confiance en Dieu, c'est on ouvre la porte, on dit, Dieu, voici le chantier. Viens. Viens. Parce que Dieu, il a les travaux qu'il veut faire dans nos vies. Mais son amour pour nous est large bien avant toute transformation de notre vie. Okay? Bien avant. Et pendant tout le chantier de notre vie, parce que ce n'est pas un chantier court, ça va durer toute la longueur de votre vie, cette largeur dans l'amour de Dieu, ça reste bien présent. Ça reste bien présente. Dans le psaume 103, verset 12, c'est David qui écrit là, il dit, « Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. » Alors, il faut savoir que quand David a écrit ça, tout le monde pensait que la terre était plate. Donc, ça veut dire que l'Orient, bah, tu continues. Et l'Occident, tu continues. Et en fait, ça continue à écarter, 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 écarter. Il n'y a pas de fin. Okay? Et donc, ce n'était pas possible de parler d'un écart plus grand que cet écart-là. C'était la façon de dire bon, à l'infini, à l'infini. Et ça, c'est la première dimension de l'amour de Dieu. Et on n'avance pas plus loin dans notre connaissance de l'amour de Dieu si on bloque sur ce premier point. Donc, c'est le point de départ pour tout le monde et pour tous les quiconques qui ont cru, tous ceux qui ont cru, ça va être une partie habituelle de notre vie, de se rappeler de la largeur de l'amour de Dieu, parce qu'on va tous avoir besoin à un moment donné dans nos vies. Donc ça, c'est le premier point. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de syndrome d'imposteur, parce qu'on ne peut pas être imposteur. Si on place sa confiance en Jésus, vous avez le droit d'être là. Okay? Il n'y a pas d'imposteur. Quiconque est le bienvenu. Et puis, une fois le chantier est ouvert, la transformation, ça commence à avoir lieu dans votre vie. Et ça va continuer comme ça. Donc, première dimension, la largeur de l'amour de Dieu. Now, avant de regarder les trois autres dimensions, il y a un mot hébreu très important qu'on va souligner parce que ça explique un peu une nuance dans l'amour de Dieu. On a dit que l'amour large de Dieu, c'est quiconque. C'est quiconque et même les quiconques qui n'ont pas encore cru. Okay? Les trois amours, dimensions de l'amour dont on va parler maintenant, il y a des choses qu'il faut garder en tête pour ça. Et on va parler du mot « chesed ». Okay. Chesed, c'est l'amour que dans l'Ancien Testament surtout, vous allez souvent voir, c'est traduit par le mot l'amour ou le mot bonté. Okay. C'est ce mot chesed. Et en fait, ce que ça signifie, c'est l'amour loyal. C'est l'amour qui est démontré par la bonté. C'est l'amour qui est fondé sur une relation établie, une alliance. Okay? Donc souvent, dans la Bible, quand vous voyez que ça parle de l'amour, et surtout dans le contexte de la relation que Dieu avait avec son peuple choisi, quand vous voyez amour ou bonté, c'est souvent ce mot chesed qui est utilisé. Et c'est fondé sur l'alliance, c'est fondé sur la relation que Dieu a établie. Donc, ça veut dire que pour les quiconques qui ont invité Dieu sur le chantier de leur vie, il y a une relation établie avec Dieu. Et ça veut dire qu'on peut prendre tout ce qui est en rapport avec Chesed, on peut prendre ça pour nous. D'accord? Et c'est le mot qui est utilisé lorsque Dieu se présente pour la première fois en personne à Moïse. Mais on va regarder en Exode 34. Donc, si je vous rappelle, Moïse, il est monté pour un rendez-vous divin avec Dieu. Dieu a dit, tu montes et je vais te parler. Je vais me présenter, tu vas savoir qui je suis. Et voici ce que Dieu dit. Il dit, l'Éternel descendit dans la nuée. Il se tint là près de lui, Moïse, et proclama son nom. Alors, son nom, c'est à l'époque, quand tu donnais ton nom, tu donnais qui tu étais. D'accord? C'est pas « je m'appelle Sandy », c'est « voici qui je suis ». Ok? Et ce qu'il dit, il passe devant lui, donc Dieu passe devant Moïse en proclamant « l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité ». Amour, ici, c'est le mot « chesed ». Je suis riche en amour loyal, en bonté. Nous avons une relation, nous avons établi une relation, voici qui je suis pour toi. Okay? Il y a l'amour loyal. Je ne t'abandonne pas. Okay? Et ce mot, ça explique l'amour de Dieu envers les personnes avec qui il a établi une relation. Ça, il faut garder en tête. Si vous avez une relation avec Dieu, cet amour, c'est pour vous. Okay? Pour les quiconques. Alors, on va parler maintenant des trois autres dimensions. Et on va voir beaucoup ce mot « chesed » qui arrive dans nos versets. Donc, l'amour de Christ est long. Alors, imaginez maintenant quelque chose qui est long. Le chemin entre, je ne sais pas, ici et Worcester, en Angleterre, là où habitent mes parents. C'est long, surtout en train. Okay? C'est long. On voit ça, on se dit « quand est-ce que je vais arriver ?» L'amour de Dieu est long. Mais ça signifie quoi? Que l'amour est long. Depuis le rejet, tout au début de l'humanité, d'une relation avec Dieu, quelque chose de très négatif s'est enraciné dans le cœur de l'homme, et c'est l'anxiété et l'inquiétude. Et c'est suite à notre rejet. Je dis notre rejet, je parle en général de l'humanité. Notre rejet de Dieu est la relation que Dieu a souhaité avoir avec nous. Le fait qu'il voulait être proche. Et l'humanité a dit non, je ne veux pas, je me cache, je ne veux pas que tu me vois. Et c'est quelque chose qui a créé une sorte de... Oui, une anxiété, il y a un manque, il y a des choses qui nous font peur maintenant, à cause de ce rejet de relation avec Dieu. Et avec cette anxiété, la réponse de Dieu à ce problème, il dit que mon amour est long. Alors, est-ce qu'on peut regarder Psaume 103, 17? L'amour, à chaque fois que vous voyez l'amour là, c'est le chesed. Okay? L'amour de l'Éternel est là depuis toujours. Et durera toujours, en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants. Je ne sais pas, voir la suite. En faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance. On parle de l'alliance là. On est en alliance. Son alliance. De ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Donc là, Dieu est en train de dire il y a un amour loyal pour ceux qui sont en relation avec moi, en alliance avec moi, qui leur désir, c'est de mettre en pratique ce que j'ai mis devant eux à faire. Alex nous a parlé récemment de ce qui caractérisait la vie de Jésus, pour qu'on puisse apprendre de la vie de Jésus. Et une chose qui caractérisait bien la vie de Jésus, c'était son assurance absolue que son Père l'aimait, du début jusqu'à la fin. Et donc, il ne s'inquiétait pour rien. Il s'inquiétait pour rien. Il savait qu'il marchait en obéissance à son Père. Et donc, logiquement, pourquoi s'inquiéter? Parce que je fais ce que mon Père m'a demandé de faire, donc je sais que son chesed est avec moi. Et forcément, il conseille la même chose à ses disciples. Encore une fois, c'est un passage que vous connaissez bien en Luc 12, 29. Il dit, ne vous faites donc pas de soucis au sujet de manger et du boire, et ne vous tourmentez pas pour ça. Et les gens qui sont tourmentés pour ça, ça vous range, parce que vous ne savez pas comment vous allez faire. Et il dit toutes ces choses. Les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Faites donc plutôt du royaume de Dieu votre préoccupation première. Et ces choses vous seront données en plus. Okay? Si vous allez vous préoccuper de quelque chose, préoccupez-vous du royaume de Dieu, parce que vous n'avez pas besoin de vous préoccuper d'autre chose. Et ça, c'est l'assurance que Jésus avait. On ne voit jamais Jésus dire, « Oh, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Où est-ce que je vais dormir cette nuit? Comment est-ce que je vais faire pour avoir accès à ce lieu-là? Qu'est-ce qui va se passer si je dis ça à ces pharisiens? Qu'est-ce qui... Non, je fais ce que mon Père m'a donné à faire. C'est bon. Et donc, nous pouvons prendre position dans l'amour loyal et actif de Dieu pour dire, comme Jérémie l'a dit et Jean l'a cité ce matin, en Lamentations 3, 21, « Voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai l'espérance. » Non, les bontés, c'est le mot chesed, l'amour loyal de l'Éternel. Ses bontés ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté, plein de chesed, amour loyal pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Et donc, l'objectif que Dieu a pour nous dans cet amour long qu'il a, c'est une vie sans anxiété, sans inquiétude. Alors, juste imaginez un instant votre vie sans inquiétude. Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Alors maintenant, vous dites, en fait, je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour ça. Est-ce que ça changerait votre vie? Oui? Non? Vous êtes les super calmes, super zen, il n'y a rien qui me tracasse. Je ne sais pas pour vous, moi, il y a des choses qui, si je ne fais pas attention, ça commence à venir m'inquiéter, ça commence à peser un peu sur moi. Et en fait, tu es en train de dire, mon amour pour toi est long. Ça a toujours été, ça durera toujours. Ma bonté, mon amour loyal envers toi, ça ne change pas. Alors, qu'est-ce que tu fais avec tes anxiétés et ton inquiétude? Parce que moi, je m'en occupe. Toi, préoccupe-toi de ce qui est important pour moi. Moi, j'ai pris tout le reste en main. Ça, c'est l'amour long de Dieu. Et c'est quelque chose qui existe pour ceux qui ont placé leur confiance en lui. Ce n'est pas un amour de Dieu que ceux qui sont extérieurs à son royaume, ce n'est pas l'amour que ces personnes-là vont connaître. Et c'est pour ça que vous allez voir autant d'inquiétude et anxiété autour de vous à l'extérieur. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour ses enfants. OK? Donc, la prochaine fois que l'inquiétude commence à se placer, rappelez-vous de votre Dieu qui vous dit, je reconnais notre relation, je reconnais que toi tu es mon enfant, on est en alliance là, je ne te lâche pas, pas maintenant, ni demain, ni la semaine prochaine, ni dans 3 ans quand j'aurai terminé ma licence et je ne sais pas quoi faire de ma vie, ni dans 20 ans quand j'aurai 3 enfants et je ne sais pas quoi faire avec, ni dans 60 ans quand voilà, j'approche de la retraite, est-ce que j'aurai une retraite suffisamment importante pour vivre, ni quand j'ai des maladies, ni en aucune de ces circonstances, est-ce que Dieu va te lâcher? Et c'est ça que Dieu peut dire, j'ai assez de bonté toutes les matinées d'ici la fin du monde pour que tu sois renouvelé. Okay? Donc ça, c'est l'amour long de Dieu. Ensuite, on a l'amour élevé de Dieu. Et ça aussi, c'est quelque chose qui existe pour ses enfants. Pour ses enfants. Nous avons lu que Dieu, dans son amour pour nous, il ne cesse d'agir en faveur de ceux qui le craignent. C'est un des versets qu'on a lu tout à l'heure. Alors, si son amour long nous donne confiance pour l'avenir, pour ce qui est à venir, la puissance de cette confiance, ça vient de son amour qui est élevé. Vous connaissez l'histoire. On ne va pas tout raconter de ce que je vais vous dire. Juste avant l'arrivée du peuple d'Israël à la terre promise, ils envoient des espions pour avoir un aperçu de tout ce qui les attend là-bas. Parce que Dieu a fait des promesses. Il a dit, j'ai une terre pour vous, c'est magnifique, il y a tout ce qui est bon dedans. Il y a du miel, il y a du lait, du... Voilà. Symbolique de tout ce qui est bon. Et donc, le peuple, il voulait voir un peu, est-ce que c'est vraiment ça? Okay. Donc, ils avaient cette idée que Dieu avait préparé quelque chose de bon pour l'avenir. Donc, les espions, ils partent. Et puis, les espions reviennent. Et qu'est-ce qui se passe? Nombre 13, 27, on va juste prendre 2 versets de cette histoire-là. Et là, c'est les espions qui parlent à Moïse. Donc, ils sont partis, ils sont revenus. N'oubliez pas, il y avait 12 qui sont partis. Il y a 12 qui sont revenus. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Et en voici les fruits. Et on a lu ailleurs qu'en fait, ils avaient une grappe de raisin. C'était tellement grand qu'il fallait 2 personnes pour le porter. Donc là, on parle du... les Français pensent que les raisins, ils y connaissent, mais... Je vous assure là, je n'ai pas vu une grappe de raisin ici où il fallait 2 personnes pour le porter. Mais c'est ce qu'ils ont trouvé là-bas. Et puis, on a le verset 28 qui plombe un peu l'ambiance. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort et les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu les descendants d'Anak. Alors, si on ne sait pas qui est Anak, ça n'a pas trop de sens. Si tu peux passer au verset suivant, quelques versets plus tard, nous y avons même vu des géants, les descendants d'Anak. C'est pour ça qu'Anak posait problème. Cette race de géants, à côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Moi, je me sentais petit, eux, ils voyaient que je me sentais petit. Ça ne va pas bien se passer si j'arrive et j'ai dit, je veux votre... Je veux votre pays. Ok, ça marche pas comme ça. Et donc, la majorité des espions, en fait, tous les espions, ils n'avaient pas un problème avec l'amour long de Dieu. Ils avaient vu les bonnes choses que Dieu avait promis. Le problème, c'était pour 10 d'entre eux, donc tout le monde, sauf Josué et Caleb, parmi les 12 espions, ils avaient la vision de l'amour long de Dieu obscurcie par un obstacle qui semblait un peu trop haut. Mince, il y a des géants. Il y a des forteresses immenses. Vous savez très bien, si vous vous mettez devant une montagne et vous regardez comme ça, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, montagne est là, ou géant, ou tout ce que vous voulez, c'est là. Et moi, je suis là et je regarde comme ça. Qu'est-ce que je vois? Un mur. Je vois la montagne, je vois le géant, je vois rien d'autre. OK? Qu'est-ce qui se passe si je lève les yeux? Qu'est-ce que je vois si je fais comme ça? Je vois le ciel. Je vois le ciel. Et dans Psaume 108, verset 5, qu'est-ce que Dieu dit de son amour? Ou qu'est-ce que David dit de l'amour de Dieu? Il dit, ton amour s'élève plus haut que les cieux. La fidélité jusqu'aux nues. Et puis, on a 2 Samuel 22, 34, aussi de David. David, il était fort dans ce domaine-là. Il dit, grâce à lui, grâce à Dieu, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. Il me fait prendre position. Donc maintenant, ce n'est pas simplement que je regarde et je vois le ciel et cet amour qui dépasse le ciel. Maintenant, c'est Dieu qui dit, OK, maintenant, on monte. Je prends position sur les hauteurs. Et puis, c'est un verset qu'on a entendu très récemment, Éphésiens 2, 6. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le monde céleste? On trouve l'amour de Dieu qui dépasse. Tu ne peux pas regarder au-dessus de l'amour de Dieu. Et donc, la seule façon de voir autre chose qu'un grand obstacle, c'est de lever les yeux un peu plus haut et voir la hauteur de l'amour de Dieu pour vous. Et encore une fois, c'est ce mot « chesed ». Ce n'est pas juste un sentiment très chaleureux que Dieu a à votre égard. C'est un amour actif, un amour qui agit. C'est un amour qui est loyal, qui n'est pas un jour c'est là, le lendemain c'est plus là. Ça tient dans le temps, ça se renouvelle chaque matin. Et Jésus, il faisait la même chose. Si on prend les exemples de la vie de Jésus, Jésus, il a réussi à voir plus grand que l'obstacle devant lui. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Jésus a souffert ce qu'il a souffert parce qu'il avait en vue la joie qui allait venir après. C'est en Hébreux 12. Il dit, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, qu'il a pu passer par ses souffrances. Et parfois, avec les obstacles, avec les choses qui se dressent devant nous, on a besoin de lever les yeux. C'est qu'est-ce qu'il y a au-delà? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette montagne, ce géant qui se présente devant moi? Peut-être, vous, comme David, peut-être vous allez devoir combattre ce géant. Peut-être ça va être une montagne où Dieu va vous dire, vous parlez à la montagne et je vais le déplacer. Ce n'est pas toujours le même traitement des obstacles. Mais ce qui est sûr et solide, c'est la hauteur de l'amour de Dieu. Quand il y a les choses qui se dressent devant vous, vous aurez toujours, si vous levez les yeux, une vision de l'amour de Dieu. Parce que c'est haut, ça dépasse la hauteur du ciel. Et puis on a l'amour de Dieu qui est profond. profond. Nous parlons des souffrances de Jésus, ce qu'il a fait. Nous aussi, on a entendu ça ce matin aussi, qu'il y a les personnes ici qui passent par les défis, les difficultés, les souffrances, les combats, tout ce qui est compliqué à gérer. Et c'est pourquoi nous avons tellement besoin de connaître la profondeur de l'amour de Jésus. Alors la profondeur, pourquoi la profondeur? Il faut savoir que le mot « profond » dans les Écritures, ce n'est pas anodin. Ce qui était profond, c'était négatif. Les profondeurs étaient la représentation de tout ce qui était chaos, l'inconnu, le trouble, l'ingérable, tout ce qui était compliqué dans la vie, la mort. Souvent, lorsque, par exemple, dans l'Ancien Testament, il parle des profondeurs de la terre, ça c'est pas, allez, on va faire un peu de spéléologie, ça c'est la mort. Il parle de la souffrance extrême, il parle d'un endroit où on est séparé de la vie. Et donc, quand on parle de l'amour de Dieu qui est profond, ça veut dire que cet amour, qu'est-ce que ça fait? Ça descend. Et on a déjà vu un exemple de ça, Jésus qui a quitté le lieu céleste et il est descendu. Déjà, pour quelqu'un qui est roi du ciel, descendre un peu, mais Jésus ne s'est pas arrêté là parce qu'il est allé encore plus bas. Et son amour était suffisamment profond pour toucher le fond de la mort. Et ça, on a chanté aussi ce matin. Les chaînes sont brisées, les eaux desséchées, qu'est-ce qui se passe? Reviennent à la vie. Ça arrive parce que l'amour de Dieu est profond. Je vous donne un exemple. En Psaume 139, pas besoin d'afficher ça, Elisa. Il y a un verset où David dit, « Si je monte au ciel, ou si je descends au séjour de la mort, même là, tu es là. » Et ça, c'est cette idée de l'amour qui est profonde. On ne peut pas aller plus bas que l'amour de Jésus. Et puis, il y a un deuxième sens de profond qu'on utilise plus aujourd'hui. C'est très contemporain, cette utilisation. C'est quand on parle de ce qui se passe au fond de nous. On dit, oh, c'est profond. C'est très profond. Souvent, quand on parle de quelque chose qui est profond en nous, c'est quelque chose qui est quasi inaccessible aux autres. Et parfois à nous-mêmes. Je suis profondément blessée. Ça veut dire que c'est tellement bas qu'il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit. En général, quand on dit profondément, c'est ça que ça veut dire. C'est au plus bas. Mais Dieu a aussi une réponse à ce type de profondeur. Là, si tu peux afficher 139. On ne va pas tout lire. Franchement, tout ce psaume-là, ça a de l'importance. Mais on ne va pas tout lire. Je vais juste citer deux ou trois lignes. Là, vous avez le premier verset. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » OK? « Tu me connais. » Plus loin dans le psaume, c'est « Tu discernes tout ce que je pense. Avant que je dise un mot, tu le connais déjà. Tu sais déjà tout ce que je vais dire. » C'est « Ok, d'accord, il n'y a rien en moi. Même ce qui est le plus profond en moi, Dieu connaît. Quand moi, j'ai du mal à mettre des mots sur les choses, Dieu, il n'a pas un souci pour mettre des mots sur les choses. Il sait ce qui se passe en nous. Il sait comment nous... Il connaît notre fonctionnement. Et parfois, ça peut être... moi, je suis quelqu'un de très compliqué. Pour Dieu, vous n'êtes pas compliqué. D'accord? Peut-être pour votre entourage, vous êtes compliqué parfois. Mais pour Dieu, tu n'es pas compliqué. Il te connaît. Il t'a créé, il connaît chaque élément de qui tu es, de ton intelligence, de tes envies, de tes sentiments, de ce qui te blesse, ce qui te réjouit. Tu n'es pas compliqué à Dieu. Alors, je suis désolée si vous aimez garder un côté mystérieux, mais ça ne marche pas avec Dieu, parce que Dieu, il a un accès à ça. Et ce qui est super intéressant, c'est que si vous regardez le passage où Paul parle de l'amour, en 1 Corinthiens 13, c'est vraiment le passage que tout le monde cite. Comment est-ce que Paul termine son passage? Ce qu'il dit, il dit, « Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors, je connaîtrai comme Dieu me connaît. » Pour Paul, cette idée d'être connu, c'est tellement mêlé avec le fait d'être aimé. Manifester l'amour, ça a un rapport avec le fait d'être connu. Et une étude scientifique que j'ai trouvée super intéressante, c'était une étude qui a été menée récemment, où ils cherchaient, c'était les psychologues, bonjour les psychologues dans la salle, ils cherchaient à identifier les éléments d'une relation qui rendaient la relation satisfaisante. Qu'est-ce qui faisait qu'on se sent bien dans une relation, que ce soit amicale, familiale, mari et femme, etc. Et vous savez ce qu'ils avaient découvert? Qu'un marqueur clé d'une relation satisfaisante, avec tout ce qu'ils avaient, toutes les questions, toutes les études qu'ils avaient menées avec les participants, le marqueur clé pour une relation réussite, c'était le fait de se savoir connu par l'autre. Et en fait, quand ils avaient classé les choses, le fait de se sentir connu par l'autre était placé plus haut que le fait de connaître l'autre. Donc, dans une relation avec Paul, j'ai plus envie que Paul me comprenne que je comprends Paul. Donc, tout le monde est un tout petit peu égoïste dans ce domaine-là, mais ils ont découvert, et ça, peu importe, ça peut être avec parents-enfants, ça peut être avec mari-femme, ça peut être avec les copains, on a tous envie d'être connus pour qu'une relation ait du sens pour nous. Ce qui m'a fait penser, en fait, finalement, lorsque je suis connue et je suis aimée, ça veut dire que je suis aimée profondément. Quand je suis connue et je suis aimée profondément parce que c'est quelqu'un qui sait tout ce qui se passe en moi. Et donc, l'amour de Dieu pour nous est profond. Nous sommes connus par Dieu. Et connaître Jésus, il avait cette même relation avec son père. Il dit, moi et mon père, on est un. Il y a rien qui se passe chez mon père dont je ne suis pas au courant. Mon père me connaît complètement. Il y a une relation réciproque très, très proche. C'est intime. Rien n'est caché. Et donc, connaître la profondeur de l'amour de Jésus pour nous, c'est vivre dans l'assurance qu'il n'y a rien dans votre vie que Dieu ne connaît pas, ne comprend pas, n'a pas une solution pour, et qu'il n'y a pas de circonstances de vie qui peuvent vous faire descendre hors de la portée de l'amour de Dieu. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on saisisse. Si on va bien vivre dans ce monde qui peut être compliqué parfois, on a besoin de s'ouvrir à Dieu. Déjà, il sait ce qui se passe en nous, mais plus on est prêt à s'ouvrir à lui pour dire, bah, Dieu, tu vois tout, prends tout, fais tout ce que tu veux, parce que toi seulement, tu as les solutions qui vont aboutir à quelque chose de bien pour ma vie. Et on s'ouvre à la profondeur de l'amour de Dieu. Et Paul, il le disait comme ça, encore une fois, c'est un passage que nous connaissons, c'est en Romains 8. Il dit, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et dans sa prière pour les Éphésiens, c'est ça qu'il est en train de dire à l'Église en Éphèse. Il faut que vous saisissiez ça. Parce que si vous arrivez à saisir ça, ça va transformer votre façon de vivre. Parce qu'on peut avoir entendu quelque chose, on peut avoir même compris quelque chose. Mais tant que ça ne descend pas, tant que ça n'est pas l'impact dans notre vie que Dieu souhaite, on va rester dans cette absence de connaissance de l'amour de Dieu. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Parce que ce que Dieu veut pour nous, et on arrive à la première phase, je vais terminer avec ça, Dieu veut qu'on vive dans la plénitude, toute la plénitude de Dieu. Alors, il ne faut pas se tromper. Est-ce qu'on peut juste mettre Éphésiens 3, 18, 19? Donc, c'est là où on avait démarré. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Et puis, oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire que si on a bien intégré ce qu'on vient de voir, il y a toute la plénitude de Dieu pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire, toute la plénitude de Dieu? Je veux vous dire ce que ça ne veut pas dire, parce que je l'ai entendu et c'est pas bien. Il faut garder les choses comme il faut. La plénitude de Dieu n'est pas l'épanouissement personnel optimal. Ça, il faut savoir. J'ai entendu les gens dire, oui, la plénitude de, c'est quand tout va bien dans votre vie. Et non, ce n'est pas ça la plénitude de Dieu. Et comment est-ce que je peux être aussi tranchant? C'est parce que la Bible a un contexte très précis pour cette expression. Et c'est toujours en rapport avec une chose. Tu peux mettre Colossiens 1, s'il te plaît? On parle de Jésus. C'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et puis, un deuxième verset, Colossiens 2, verset 9. Tu peux passer au suivant? Ah oui, pardon, excuse-moi. Ils sont tellement similaires que je n'avais pas vu. Car c'est en lui, Christ encore. C'est dans son corps. C'est quoi son corps? Quel est le corps de Jésus? Allez, un peu de conviction, s'il vous plaît. C'est qui? Le corps de Christ. C'est nous, d'accord? C'est nous. C'est en lui et c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. OK? La plénitude de Dieu, c'est la vie de Jésus. Toute la plénitude de Dieu, c'est ce que Jésus portait avec lui. Et par extension, parce que nous sommes son corps, la vie que portait Jésus, c'est pour nous. Et c'est important que dans sa prière, Paul dit que c'est tous ensemble avec le peuple. Ce n'est pas quelque chose que tu vis seul. C'est quelque chose que tu vis avec tout le peuple saint, parce que nous sommes son corps. Et si on veut vraiment connaître l'amour de Dieu, oui, Dieu peut m'aimer quand je suis chez moi, mais la démonstration complète de l'amour de Dieu se trouve dans la communauté de Dieu, dans la famille de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Ne vous coupez pas, on a déjà entendu ce matin, ne vous coupez pas de l'Église si les choses sont compliquées. Parce que pour connaître tout ce qu'il y a à connaître de l'amour de Dieu, vous avez besoin d'être en communauté avec d'autres chrétiens. Ça, c'est vraiment important. Et donc, une dernière phrase pour finir. Connaître la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu, c'est être rempli de la vie de Jésus. Et donc, ce matin, j'aimerais bien ajouter un pilier à tes piliers, Alexis, si tu le permets, des choses qui caractérisent la vie de Jésus. Vivre à la manière de Jésus, c'est vivre en sachant que vous êtes largement, longuement, hautement et profondément aimé de Dieu. Vous êtes aimé d'un amour qui apporte appartenance, tranquillité, sérénité, espérance, confiance et abandon de soi. Et quand on entre dans la connaissance de cet amour-là, on devient capable d'aimer les autres de la même manière. Amen. Alors, je vous invite juste à fermer les yeux. Alors, peut-être il y a une dimension de l'amour de Dieu en particulier qui vous vous dites, je ne suis pas sûre que je connais cette dimension-là. Peut-être que vous êtes tout au début et vous ne connaissez même pas pour l'instant la largeur de l'amour de Christ. Et il y a vraiment une invitation de Dieu pour dire, est-ce que tu veux connaître la largeur? Parce que c'est déjà là, je t'aime déjà. Je t'aime déjà, que tu le veuilles ou pas, je t'aime. Mais tu as un choix de l'accepter ou pas. Peut-être c'est plus dans la longueur, les inquiétudes, l'anxiété. Tu as du mal à laisser au lendemain, les soucis du lendemain. C'est quelque chose que tu portes avec toi. Et tu as besoin de connaître l'amour long du Seigneur. Peut-être que c'est dans la hauteur de l'amour de Dieu que c'est plus compliqué en ce moment. Il y a des obstacles. Tu as du mal à lever les yeux pour voir le chesed de Dieu, l'amour loyal. Mais sachez que c'est là. Sachez que c'est là et que Dieu ne te lâche pas. Peut-être que c'est dans la profondeur. Il y a quelque chose qui se passe, peut-être dans les circonstances ou peut-être au fond de toi. Et tu as l'impression d'être mal compris, pas connu, il n'y a personne qui sait ce qui se passe pour moi. Dieu sait. Dieu sait. Et il sait, même sans cette situation-là, d'apporter son amour. Parce que ce que Dieu veut pour chacun, pour toi, pour moi, c'est la plénitude, la vie de Jésus en nous. Donc, Seigneur, maintenant, tu connais nos cœurs, tu vois où on est. Tu vois ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris, ce qu'on a déjà accepté, ce qu'on n'a pas accepté. Tu vois là où il y a les difficultés de vraiment croire que c'est vrai. Et pourtant, c'est ta parole, Seigneur, et c'est vrai. Et donc, nous invitons maintenant ton esprit, juste souffler dans nos cœurs. Et que ton amour prenne toute sa place dans nos vies. Que ton amour prenne toute sa place et nous accueillons la plénitude, toute la plénitude de Dieu dans nos vies personnelles et dans notre vie d'Église. Amen.